Merci Sarah, merci Kimberly pour l'organisation de ce séminaire. Et puis merci Sarah pour cette introduction très complète. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas avoir à vous expliquer, du coup vous avez tout compris. Alors, mon intervention du jour traite de la représentation d'Emma de Normandie dans deux œuvres publiées à environ 965 ans d'écart, L'Em Comium Emma et Reginae, livre d'éloge produit dans la seconde partie de la vie d'Emma de Normandie, et All a Crown, publié par Hélène Olic en 2004. Ces deux œuvres, bien que produites à des périodes très différentes et proposant des approches qui semblent au premier abord opposées, l'une de l'autre s'unissent pourtant dans un sujet commun. Toutes les deux proposent une biographie d'Emma de Normandie et offrent donc par extension une analyse des symboles de pouvoir de la reine et de l'utilisation de ces derniers sur la scène politique anglaise et internationale au XIe siècle. On va commencer par un petit brush-up de nos connaissances sur Emma de Normandie et le XIe siècle en général, parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore regardé Viking Valhalla et du coup qui ne connaissent pas toute sa vie. Alors, Emma de Normandie évolue au XIe siècle. L'Angleterre du début du XIe siècle est marquée par les attaques et raids de Vikings menées par le chef de guerre danois Sven à la barbe fourchue. Afin de protéger sa propre situation sur la scène internationale, Æthelred, roi d'Angleterre, Æthelred II, propose une alliance plus significative à Richard II, duc de Normandie, un mariage qui unirait la Normandie et l'Angleterre. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'Emma de Normandie entre sur la scène internationale et dans notre histoire d'aujourd'hui, puisque son mariage en 1002 consacre donc cette union entre l'Angleterre et la Normandie. En 1002, Emma a entre 12 et 22 ans. Elle est née de l'union de Richard Ier et Gunnar. Et nous ne connaissons pas son année de naissance exacte. C'est pour ça que je vous dis 12 à 22 ans. C'est une supposition. Comme de nombreuses jeunes filles de la noblesse européenne médiévale, elle aura sûrement appris plusieurs langues à maintenir un foyer noble et à maintenir ses finances. Puisqu'elle commissionne aussi un Em Comium plus tard dans sa vie, on imagine qu'elle sait lire et écrire. Pas sûr, c'est la beauté des études du XIe siècle. Emma épouse donc Æthelred en 1002 et reçoit les sacres qui font d'elle une reine d'Angleterre. Emma est considérablement plus jeune qu'Æthelred puisqu'il a déjà été marié une à deux fois et il a aussi plusieurs enfants dont des fils. De ses fils, on va en retenir vraiment qu'un seul pour pas trop compliquer toute notre histoire. On va retenir Edmund Côte de Fer. Le mariage d'une reine s'effectue selon une coutume codifiée. Elle est ointe, couronnée, reçoit la couronne et une bague l'unissant à l'Angleterre et elle promet de protéger l'Angleterre et sa spiritualité. Emma reçoit des terres, dont Winchester, qui deviendra par la suite son chef-lieu. L'union de Æthelred et Emma produit trois enfants, Édouard le Confesseur, et Godgifu, une fille. En 1002, Æthelred ordonne le massacre de la Saint-Brice, menant à la mort de Danois installés en Angleterre et vivant sous la loi anglaise. Et cet événement accélère les incursions danoises dans le pays et mène éventuellement à la prise de l'Angleterre par les Danois. La famille royale est alors poussée à fuir l'Angleterre pour la Normandie. Mais Sven, couronné roi suite à la fuite d'Æthelred, meurt en février 1014. Et Æthelred est rappelé au pouvoir. Les fils de Sven sont trop occupés à se battre pour la couronne danoise pour demander la couronne d'Angleterre. Et donc c'est Æthelred qui en réhérite jusqu'à sa mort en 1016. Et puisque les fils d'Emma sont trop jeunes à ce moment-là pour eux-mêmes monter sur le trône, c'est Edmund, donc Côte de Fer, qui devient roi. Canute, l'un des fils de Sven, qui deviendra ensuite Canute le Grand, pour le coup, commence à se plaindre un petit peu, revient en Angleterre et veut récupérer la couronne. Les deux hommes se rencontrent à la bataille d'Ashingdon, et se sépare le pays. Le nord va à Canute, le sud va à Edmund. Edmund meurt quelques mois plus tard, et donc Canute devient roi de facto. Le sud du pays refuse pendant quelques mois d'accepter l'autorité de Canute, et ça mène à la prise et au siège de Londres, auquel Emma a sûrement assisté, puisqu'elle était probablement à Londres à cette période. Forcée ou non, décision politique ou romantique, Emma accepte d'épouser Canute en 1017 parce que Canute reconnaît que pour asseoir son autorité en Angleterre, il a besoin d'épouser une figure anglaise importante, la reine. Emma accepte ce mariage avec quelques provisions. Déjà, il faut que ses enfants deviennent rois à la suite de Canute. C'est une provision importante parce que Canute est déjà marié et ne va pas divorcer ou répudier son épouse. C'est un mariage païen qui est acceptable à la période, à côté du mariage catholique. Cette seconde épouse s'appelle Elgifu de Northampton et ils ont deux enfants, deux enfants, deux fils. Les enfants anglais d'Emma sont envoyés en Normandie pour les protéger, puisque Canute, il présente une menace contre le règne de Canute le Grand, et donc Canute le Grand pourrait les faire exécuter. De son second mariage, du second mariage d'Emma, on a plus de traces, puisqu'elle est présente dans plus de documents officiels, et elle donne naissance à deux enfants, Arthur Canute et Gunhild. Arthur Canute sera éventuellement envoyé au Danemark par son père afin d'être son régent, ce qui deviendra un problème quand, en 1035, Canute décède. Et c'est donc l'un des fils d'Elgifu de Northampton qui s'empare du pouvoir. C'est Harold Pied-de-Lièvre. Emma est poussée à l'exil en France jusqu'au retour de son fils en 1040, où, à la mort d'Harold, Arthur Canute récupère la couronne. Étant donné qu'il n'est pas marié, Emma règne assez aux côtés de son fils, et c'est sûrement au cours de cette période qu'elle commande l'encomium. Arthur Canute fait revenir son frère Édouard de Normandie, et c'est celui-ci qui hérite de la couronne à la mort de Arthur Canute. Édouard écarte très vite sa mère du pouvoir et elle passe le restant de ses jours à Winchester, probablement dans l'oubli et loin du pouvoir, où elle mourra en 1052. Donc en théorie, je viens de vous éviter d'avoir à lire ces deux livres, parce que tous les deux parlent de la vie d'Emma de Normandie. Et pourtant, les deux œuvres n'adoptent pas au premier abord la même forme. L'Encomium Emmae Regina est un livre d'éloge qui se présente comme un travail biographique. Cette œuvre n'est pas la seule trace de la vie d'Emma de Normandie, auquel nous avons aujourd'hui accès, mais elle est la seule trace de sa voix et de sa perception des événements qui ont mené à la conquête danoise, à des règnes et à ses règnes en tant qu'épouse du roi et reine-mère. Le texte de l'Encomium est composé de trois livres. Un premier qui va nous parler de la conquête danoise par Sven, un deuxième qui parle du mariage d'Emma de Normandie et Canute le Grand, et un troisième qui parle du règne d'Arthur Canute. Cette biographie n'inclut donc qu'une partie de la vie d'Emma de Normandie, ignorant en grande partie son mariage et ses fils anglais. Donc cette copie est la version de Françoise Orange, traduite donc par celle-ci en 2022 et publiée aux presses universitaires de Caen. Si vous voulez une copie, vous pouvez aller toquer au bureau après cette conférence, enfin, après ce séminaire. Le manuscrit original de l'Encomium a disparu et la forme la plus étudiée est donc le manuscrit qu'on nomme L, qui réside à la British Library actuellement. C'est à la fois le manuscrit le plus complet et le plus proche de l'original que nous puissions étudier en l'absence du codex d'origine. L'œuvre a été produite donc au début des années 1040, mais le contexte et l'année de sa production nous est inconnu. On ne connaît pas aussi non plus le nom de son auteur et en général on y fait référence comme l'Encomiaste. Des indices textuels nous indiquent que c'est sûrement un clerc de Flandre, probablement de Saint-Omer, mais encore une fois, on ne peut pas en être sûr. Nos connaissances très limitées sur la genèse de l'Encomium nous empêchent de déterminer avec précision les motivations qui ont poussé Emma à commander une telle œuvre. Mais elle est publiée à la demande d'une femme et à propos d'une femme, ce qui est extrêmement rare au XIe siècle. C'est un acte politique pour une reine d'Angleterre, dont la représentation dans la plupart des chroniques anglaises sera limitée à cause de son genre. L'Encomium n'est pas seulement une rare source témoignant de la vie d'une femme au XIe siècle, il représente le point de vue d'une femme sur sa propre situation dans la période et l'image qu'elle souhaitait représenter à ses contemporains et à la postérité. Ensuite, on a A Whole Crown, qui est un roman historique appartenant à une série qui débute avec la publication de Harold the King. Donc, c'est une fiction historique qui reprend la vie d'Emma de Normandie depuis son arrivée en Angleterre en 1002 jusqu'au décès de son plus jeune fils en 1042. Le roman est divisé cette fois en quatre parties. Le règne d'Ethelred, le règne d'Edmund, le règne de Canute et alors le règne d'Emma, qui est en réalité la régence d'Emma lors du règne d'Arthur Canute. Il reprend donc les événements historiques et tente de présenter le point de vue d'Emma de Normandie et ceux qui l'entourent au cours des 40 années qui ont marqué le règne d'Emma de Normandie, en liant ainsi représentation de pouvoir et vie intime des femmes de la période médiévale. Alors je travaille ici avec A Whole Crown, vous allez pouvoir trouver une autre version, c'est la version américaine The Forever Queen qui a été publiée en 2011. La différence c'est que A Whole Crown est la version non éditée par l'autrice, The Forever Queen va être plus court. Ce roman s'inscrit dans un catalogue de fiction historique publié par l'autrice, Hélène Olic, qui avait déjà publié une trilogie arthurienne, The Pendragon's Banner. A Hollow Crown propose, tout comme l'avait fait Lemcomien presque 1000 ans plus tôt, la perspective d'une femme sur sa propre situation, sa vie, et plus important pour cette intervention, son pouvoir. Mais cette interprétation n'est plus une vision contemporaine à Emma Normandie, et les critères de pouvoir, particulièrement de pouvoir au féminin, ont évolué, ce qui me permet de supposer que le but de la représentation, tout comme sa forme, a changé. Alors, dans le cadre de cette intervention, je vais travailler avec une définition du pouvoir qui est proposée par Pauline Stafford, qui est l'une des grandes biographes d'Emma de Normandie. Alors, la citation étant longue, on ne va pas tout lire. Je vous invite juste à lire les parties qui sont en gras. Donc, « Power is the ability or chance to realize our own will, if necessary, against the resistance of others. Fully legitimate power is close to authority. Power stresses the ability to act, authority the right to act. A person with authority can command simply by the position he or she is in. Authority is socially sanctioned power, power sanctioned by the gods, age, by gender, by status, wealth or military prowess. » Donc, dans cette définition, on va retenir qu'Emma de Normandie, elle a du pouvoir parce qu'elle a de l'autorité. Son autorité, elle lui vient donc de la caution de son statut en tant que reine, et on va le voir aussi beaucoup de sa richesse. Alors, dans le cadre de cette intervention, je vais traiter donc de l'étude de la représentation d'Emma de Normandie et avant tout son pouvoir en tant que reine dans deux œuvres publiées au XIe et XXIe siècle, dans le but de mettre en lumière les enjeux d'une telle représentation au cours de deux périodes dont le traitement de la femme, la reine et son pouvoir semblent opposés. Et donc on va diviser cette intervention en trois parties. La construction des représentations de pouvoir, intersexualité et divergence des œuvres en écho et enfin les enjeux de la représentation. Donc on va commencer par la représentation du pouvoir dans Lemcomium, qui ne commence ni à la naissance ni au premier mariage d'Emma, et ne commence même pas avec Emma elle-même. Elle est représentée à travers ses origines normandes et son appartenance danoise. Il nous faut donc nous interroger sur ce choix. Lemcomium est un livre qu'elle a commandé et dans lequel elle se représente. La motivation derrière sa commande nous en apprend beaucoup. Emma, on a plusieurs théories sur pourquoi est-ce qu'Emma de Normandie se représente dans ce livre. Et pourquoi elle se représente comme ça, enfin comme telle. Et donc, sous le règne de Canute, elle a plus de pouvoir. Elle apparaît dans plus de chartes. Elle est plus âgée. Elle est aussi possiblement plus âgée que Canute lui-même. Donc, en se présentant ici, elle se représente à l'apogée de son pouvoir. Lemcomium existe aussi peut-être pour justifier le pouvoir d'Arthur Canute, puisqu'il représente le fils de l'ancien roi, mais aussi le fils de la reine couronnée. Et en petite cerise sur le gâteau, vraiment, il critique énormément Harold Pied de Lièvre, qui pourtant, quand le livre est commandé, est probablement mort. Donc cette critique est sûrement faite pour justifier le rôle de son successeur, Arthur Canute. Enfin, Campbell, qui est le traducteur anglais de Lemcomium, pense que ce n'est pas Emma qui a choisi cette représentation, c'est Lemcomiast, qui tente vraiment de faire une éloge d'Emma de Normandie. Et donc, représenter une reine qui épouse l'ennemi de son défunt mari, c'est pas une super éloge. C'est une théorie que j'aurais tendance à réfuter, mais on verra par la suite pourquoi est-ce qu'il faut peut-être la réfuter. C'est quand même une théorie qui représente Emma qui souligne qu'Emma est représentée selon les idéaux féminins de la période. Or, idéal féminin et pouvoir sont liés. Emma n'est pas juste une femme au XIe siècle, elle est la femme parmi toutes les femmes. Et Lemcomien, s'adressant à Emma de la manière suivante, nous l'indique. Il va écrire « Ô reine, vous qui par la distinction de vos mœurs l'emportez sur toutes celles qui appartiennent à votre sexe. » Donc là, on est page 78 de la traduction de Orange. Le pouvoir d'Emma lui vient de sa relation avec des hommes et ses relations sont toutes liées à l'idéal féminin. Elle est fille de Richard, qui la rend éminente par son lignage et ses biens. Elle est épouse de Canute, dont elle est légale, et elle est mère d'Arthur Canute, qui l'écoute et qui mène au bonheur du pays. Son mariage est heureux parce qu'elle est l'épouse de Canute, mais aussi son égale. Enfin, Emma est représentée comme une femme idéale, par sa beauté et sa sagacité. Lemcomiast ajoute « la plus remarquable de toutes les femmes de son époque par l'attrait de sa beauté et de sa sagesse, comme il s'y est une reine de renom. » De par la nature brève de l'œuvre, mais aussi parce que cela n'apporte rien à la représentation de pouvoir proposée par Emma, les femmes sont en grande partie absentes du texte. Elle Guifu est entrevue, mais elle n'est pas citée de nom. Elle est concubine, menteuse et séductrice de Canute, ce qui délégitimise le pouvoir de Harold, de son fils, Emma nous l'affirme, son fils n'est pas réellement le fils de Canute, ce serait l'enfant d'une servante qui a été dérobée à celle-ci juste après sa naissance et placée dans les bras d'Elgifu. Ce qui ne fait d'ailleurs que souligner les points positifs d'Emma, parce qu'au contraire, elle est aimée tous, c'est une bonne mère, écoutée en retour par son fils, une épouse chérie, qui ne fait qu'un avec l'entité politique et romantique qui est son époux. Et c'est une régente généreuse et aimée. Quand elle est en exil en Flandre et qu'elle doit repartir de cet exil, les riches comme les pauvres pleurent son départ. Donc l'image des femmes sert de contraste avec celle d'Emma, elle-même plutôt que de présenter de véritables connexions. Emma apparaît adulte directement en position de pouvoir. Elle n'est jamais enfant, jamais mariée à Æthelred II. Elle apparaît dans ses négociations de mariage et presque directement après, elle se marie à Canute et donne naissance à son fils. C'est vraiment dans la même page. La seule perte de pouvoir qu'elle rencontre, c'est quand Harold vole le trône. Harold vole le trône, lui qui ourdissait des pièges contre elle. Mais Harold n'est pas seulement un opposant politique, il est aussi l'opposant moral d'Emma qui est protégée par Dieu. Donc là, on se rappelle de la citation tout à l'heure sur le pouvoir et les cautions qui donnent l'autorité. Dieu donne l'autorité, Emma se représente comme bénie par Dieu. Donc Emma est l'être le plus moral des deux entre Harold et Emma de Normandie. Par opposition, Harold est un bâtard au sens légitime du mot. Je ne suis pas en train d'utiliser une expression. Hein. Voilà. Il est issu du vol de la concubine du roi et il est la cause du meurtre d'Alfred, le fils d'Emma. Emma est présentée comme une servante de Dieu, bénie par celui-ci, et très bonne mère qui subit le deuil de son enfant. L'image du pouvoir qui nous est donc offerte par l'encomium est statique. Emma est une femme de pouvoir dès le début de l'œuvre et le reste tout au long de celle-ci, puisque son caractère et sa position de reine lui permettent. Avec Hold the Crown, on a une autre représentation du pouvoir. Alors, je vous ai fait une petite équation sur comment est-ce qu'on gagne le pouvoir selon Hélène Olic. Donc, âge plus position, entre parenthèses, couronnement plus fils, plus savoir, égale pouvoir. L'âge est mentionné 3 fois. Tout au début, quand Emma est très jeune, elle est naïve, elle a moins de pouvoir que ceux qui l'entourent. Godgifa, par exemple, qui est sa servante, est une femme qui a une grande position à la cour. Et parce qu'elle en sait plus qu'Emma, parce qu'elle est plus âgée qu'Emma, elle domine Emma. C'est pareil pour Æthelred, qui est toujours toutes les références à Æthelred au début du livre sont vraiment sur son corps, qui est plus âgé que celui d'Emma, qui est plus imposant que celui d'Emma. Donc on a vraiment une différence entre les deux. Quand elle se marie avec Canute, elle est plus âgée et donc a plus de pouvoir. Et quand elle devient vieille femme, enfin, elle perd sa féminité. Les seules références qu'on a avec le fait qu'elle est vieillie, c'est que ça y est, elle est ménopausée, ce genre de choses. Et comme on le verra après, le pouvoir féminin, parfois, passe par le corps de la femme. Le savoir, c'est le dernier point ici, il aurait peut-être dû être mis en haut, juste au-dessus. C'est aussi un point très important. Emma arrive avec très peu de connaissances. Elle est jeune, mais elle est aussi inéduquée en politique anglaise. Elle ne parle même pas la bonne langue. À plusieurs reprises, elle est éduquée par d'autres. Wulfnot et Godwin, par exemple, qui sont des personnages politiques du livre. Son manque de savoir l'empêche de se défendre, de prendre position et la porte à faux régulièrement. Plus tard dans le livre, elle gagne du savoir et donc en pouvoir. Elle a un réseau d'espions qui lui permettent de prendre les devants et elle connaît assez le système anglais pour prendre des décisions politiques. Lors de la prise de Londres, lorsqu'elle rencontre Canute pour lui proposer de l'épouser, on observe deux niveaux de savoir. Emma est assez éduquée pour savoir que Canute a besoin d'épouser une reine anglaise afin de protéger sa position, mais on apprend aussi plus tard qu'elle a un réseau d'espions qui lui ont appris que Canute pensait déjà à lui proposer de l'épouser, et donc elle a pris les devants. Et enfin, on a la position. Alors, il y a deux éléments dans cette position, il y a le couronnement et les fils. Emma n'est pas juste la femme du roi, elle est la reine Wendt. C'est une différence importante à faire au XIe siècle. Elle reçoit une grande partie de son pouvoir de ce couronnement, et en particulier dans la première partie du roman où Emma occupe une position de pouvoir mais n'est pas réellement pleine de pouvoir elle-même. Son accès au pouvoir est donc codifié par la cérémonie du mariage puis du couronnement, et ses expressions de pouvoir le sont aussi. Il est traditionnel d'avoir une garde, ce qu'elle obtient après son mariage et son couronnement, d'obtenir des terres, de faire des dons, de recevoir des marques de respect de ceux qui l'entourent, qui vont se mettre à genoux par exemple. Elle a aussi énormément de bijoux et de biens matériels. Et donc encore une fois, on se souvient de la citation de Stafford que je vous ai montrée sur l'autorité et le pouvoir au tout début. C'est donc là la différence entre le mariage et le couronnement. Plusieurs femmes, Elgifu de Northampton par exemple, expriment dans le roman que le mariage est un moyen de protection. tandis que le mariage d'Emma lui procure du pouvoir, ce qui peut lui permettre de se défendre elle-même. On fait vraiment une opposition entre les femmes et la reine, et, y compris les femmes de roi. Emma va dire de la première épouse d'Ethelred, « But then, I am not your first wife. She was your uneducated concubine. I am your queen. » Et donc, elle fait vraiment une différence entre les deux elle-même. On va parler plus tard de l'isolement d'Emma face aux membres de son genre. Le couronnement est une étape qui permet d'accéder au pouvoir. Pour le maintenir, il faut maintenant des fils. Si Ethelred II pourrait plus difficilement chasser Emma de Normandie qui ne l'a fait avec sa première épouse parce qu'elle n'était pas couronnée, s'il n'y a pas d'héritier mâle, il menace de chasser, de répudier Emma. Pour son mariage avec Canute, la naissance d'un fils consolide la place qu'occupe Emma de Normandie sur le trône et lui procure un élément de défense contre Ælgifu de Northampton. Les fils sont aussi un outil politique pour Emma qui ne peut régner seule. En l'absence de mari, ou tout du moins d'un mari compétent, les fils d'Emma sont un moyen pour elle de conserver son pouvoir en conservant sa position de reine. Durant la maladie d'Ethelred II, dans la deuxième partie de son règne, Emma utilise la position de son fils Édouard en tant qu'héritier afin d'agir comme régente. Elle insiste, par exemple, pour qu'Édouard soit envoyé négocier le retour de la famille royale en Angleterre, alors qu'Édouard est vraiment très jeune et au final ne peut pas négocier lui-même ce retour. C'est Emma qui va le faire en son nom. L'image d'Emma en tant que femme évolue à travers le récit. Elle est tout d'abord une jeune fille qui a très peu de pouvoir et qui est placée dans une position de pouvoir. Son pouvoir individuel, qui ne lui vient pas de sa position mais de ses actions, grandit avec elle et sa prise de confiance. Progressivement, Emma se voit capable de donner des ordres, de prendre des décisions politiques et éventuellement d'utiliser un pouvoir qu'une femme ne pourrait pas employer, en dirigeant par exemple les troupes lors du siège de Winchester, puis celui de Londres, qui ont tous les deux lieu dans le roman. En ce sens, le récit nous propose une vision du pouvoir qui évolue sur deux niveaux. Emma est une femme de pouvoir, une reine, mais aussi une femme qui gagne du pouvoir, en s'éloignant des représentations traditionnelles de son genre, donc. Qui nous amène à une représentation des femmes qui oppose le rôle d'épouse et de reine. Emma n'est pas une femme, elle est reine et obéit donc à un set de règles différents des autres femmes du roman. Les commentaires sur la place d'Emma en tant que femme sont toujours suivis par un rappel à l'ordre. Lorsque Godwin, par exemple, lui rappelle qu'un champ de bataille « is no place for women », Emma répond « maybe not, but I am your queen ». Les relations d'Emma avec les femmes qui l'entourent sont donc influencées par cette différence. Emma est une femme très isolée tout au long du livre. Toutes ses relations avec d'autres femmes finissent par une fin plus ou moins tragique. Elle n'est jamais proche de sa mère, dont les conseils l'accompagnent, mais qui n'est jamais physiquement présente dans le roman, et elle s'interdit de se rapprocher émotionnellement de ses filles. Et de ses trois amitiés proches avec des femmes, on a Gunilda, Leofgifu et Gita, deux finissent par la mort de l'ami, et son amitié avec Gita est rompue à cause d'une dispute politique entre l'époux de Gita, Godwin, et Emma. La relation la plus significative de la deuxième partie du roman est celle aussi qu'Emma de Normandie a avec Ælgifu de Northampton, qui est son ennemi. Si les deux femmes ne sont que très rarement en présence l'une de l'autre, le pouvoir d'Ælgifu lui vient de sa féminité, et en particulier du sexe. Sa relation avec Canute, et donc les faveurs qu'elle obtient, ne se limitent qu'à une attirance sexuelle. Emma, de son côté, est quelqu'un qui tend à être désexualisée. Elle apprécie les relations sexuelles avec Canute, mais plus jeune, elle a été violée par Ethelred II, et sa position fait que qu'elle est considérée comme une entité politique avant d'être un objet sexuel aux yeux des hommes qui l'entourent. Il est donc facile de voir que Emma et Ælgifu ne sont pas sur un pied d'égalité dans leur conflit. Le pouvoir d'Ælgifu lui vient d'un artifice qui va disparaître avec le temps, tandis que... J'avais mal mis ma feuille, pardon. Tandis que celui d'Emma est lié à la position et ça ne peut donc pas lui être retiré, ou alors très difficilement. L'opposition est d'autant plus marquée qu'elle est décrite par Canute, qui est l'époux de ces deux femmes. Il dit « Emma would never cheat on her husband because she was a queen and because she did not need to be beautiful or alluring. There was something more to her, more important than the surface layer that everyone saw. She was regal, stately, every inch of her shouted royal pride. Ælgifu was uncouth, with no subtlety or gift for political astuteness. Beside Emma, she was an embarrassment. » Donc, il faut quand même nuancer ce propos, puisque Emma occupe une position de pouvoir, mais elle n'en a pas en tant qu'individu pendant une grande partie du roman. Il faut donc différencier son pouvoir qui est intrinsèquement lié à la position de reine et le pouvoir qu'elle veut pour elle-même qui lui vient donc de sa position de femme et qu'elle doit obtenir morceau par morceau. Et c'est un pouvoir qu'elle n'aura jamais entièrement parce qu'elle est une femme. Le mariage avec Canute, par exemple, réintroduit la notion d'épouse. C'est à partir de ce moment-là dans le roman qu'on la voit s'occuper à des activités qui sont plus traditionnellement féminines, comme la broderie, la couture, ou alors avoir compté fleurette avec son mari. Et pourtant, Canute ne la laisse pas régner seule, parce qu'elle est une femme. Si elle est régente, elle ne sera jamais toute seule, par exemple. Contrairement à Æthelred II, il ne lui prend pas le pouvoir. Il ne lui en donne juste pas. La position d'Emma en tant que femme lui confère aussi un savoir et un langage qui est perçu comme purement féminin. À plusieurs reprises, les femmes expriment la différence entre leur savoir, un savoir de vie pratique et ancré dans un besoin de survie, et ceux des hommes, qui est d'autant plus marqué qu'il est celui du pouvoir. Afin d'obtenir ce dit pouvoir, Emma n'a pas besoin d'apprendre, elle a besoin d'apprendre un savoir d'homme. Maintenant qu'on a fait les deux représentations, promis, ça va aller plus vite. Alors, on va parler maintenant des points communs et des points de divergence, d'intertextualité et de divergence entre les deux œuvres. Donc déjà, il est important de noter que les deux œuvres étudiées n'appartiennent pas au même genre et que par conséquent, elles ne sont pas soumises aux mêmes critères. L'Hymn Comyon est un petit peu complexe à définir. C'est donc un livre d'éloges, comme son nom l'indique et comme Sarah nous l'a si bien dit tout à l'heure. Mais il pourrait aussi être défini comme une biographie, puisque le texte n'est pas écrit par son sujet principal, Emma. Nous devons cependant prendre en compte le fait qu'une reine 11e siècle n'aurait pas produit sa propre autobiographie. Il est possible d'imaginer que la voix transmise dans l'Hymn Comyon par le biais de l'Hymn Comyaste est directement celle d'Emma. Si on en suit la définition de l'autobiographie proposée par le jeune, le texte proposé ici ne répond qu'à certains des critères de l'autobiographie. Nous appelons autobiographie le récit rétrospectif, vous voyez la citation ici, le récit rétrospectif en prose que quelqu'un fait de sa propre existence quand il met l'accent principal sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. L'Hymn Comyon va donc à l'encontre de beaucoup de ces critères, puisqu'on passe par un intermédiaire, l'Hymn Comyaste, et Emma n'apparaît qu'à la moitié du récit. Cependant, si on essaye de recontextualiser l'œuvre au XIe siècle, on comprend que ça pourrait peut-être être une forme d'autobiographie. Comme je le disais, une femme n'aurait pas écrit sa propre autobiographie au XIe siècle, même si les femmes ont tendance à être proches de la production littéraire. L'Hymn Comyon est un objet unique puisqu'il nous présente la perspective d'une reine sur sa propre situation. C'est donc la trace la plus proche de la voix d'une reine du XIe siècle qui nous sera donnée d'étudier. On peut aussi noter que la place de la femme dans la société du XIe siècle n'est pas la place de la femme dans la société du XXIe siècle. Une femme au XIe siècle est définie par la famille qu'elle épouse. La vie et les actions de Sven, Canute et Arthur Canute sont donc perçues comme une réflexion de la vie d'Emma. En les représentant, Emma définit le contexte qui l'amène à sa position de reine et se définit elle-même. Alors, Hélène Olic, au contraire, ne se définit pas comme une historienne et ne définit pas son œuvre comme des récits historiques, mais bien comme une fiction historique. On a la définition de ce genre donc sur le deuxième petit encadré. De fait, on pourrait définir le roman ou la fiction historique en croisant la présence d'un élément, le passé, sous quelque forme que ce soit, et l'élucidation d'un enjeu. Celui-ci peut révéler de la compréhension du passé en ce qu'il éclaire le présent. Le roman peut suppléer à l'histoire lorsque celle-ci échoue à faire ce que fut le passé. Il peut viser à la distraction, au divertissement, voire au dépaysement que procure le voyage dans le temps. Il vise parfois aussi, au moins dans la perspective du lecteur, à appréhender, connaître une période historique, un événement. Et de fait, A Hall of Crown tombe parfaitement dans cette définition. En 2010, Hélène Olic note dans un billet sur son blog « I decided to write Emma's story because I felt there should be an end to who was she ». Donc on a un but qui est semi-éducatif, connaître une période historique, un événement. Hall of Crown reprend donc des faits historiques pour nous proposer de découvrir la vie d'une figure généralement peu connue tout en discutant de la condition du pouvoir et de la place de la femme dans la société du XIe siècle. On peut aussi noter que la taille et l'accès à chaque œuvre est assez différent. Alors là, il y a un appareil de notes qui est assez important, mais il faut savoir que l'Hymn Comyon est très court. Normal, il a été écrit à la main par un moine au XIe siècle. On n'a aussi pas accès à l'intégralité de l'écrit comme il était à l'époque. Et on n'a plus accès qu'à 5 manuscrits qui sont tous des copies. Le Hall of Crown, au contraire, a été entièrement vendu quand il a été publié en 2014. Et on a eu une réédition en 2011 par une maison d'édition américaine. La forme, le temps qu'auraient pris ces livres à être produits, et tout simplement la capacité de diffusion de ces livres va forcément changer la forme de l'écrit. Donc, il semble important de noter qu'en dépit de, de nombreuses différences de forme, A Hollow Crown est inspiré de l'encomium. C'est évident puisqu'on a très peu de sources du XIe siècle et très peu qui décrivent la vie d'Emma en particulier. Mais en plus, on a, dans The Hollow Crown, on a une scène où Hélène Olic introduit l'encomium dans son récit et plante l'idée dans l'esprit d'Emma d'écrire le récit de sa vie, ce qui nous amène presque au final à de la métafiction. Pourtant, certains points divergent. La représentation de la maternité d'Emma, par exemple, est l'un de ses premiers points. L'encomium présente Emma comme une bonne mère aimante et attentive aux côtés de Hertha Kanute. Et pourtant, Hélène Olic présente un récit plus nuancé de la maternité. Emma rejette ses fils anglais et c'est son amour trop étouffant qui pousse Hertha Kanute à décider de rester au Danemark quand son père l'enjoint à revenir en Angleterre. La relation qu'Emma entretient avec Dieu est aussi différente dans les deux textes et pourrait être même lue comme une réponse directe de A Hollow Crown à l'Encomium. Dans l'Encomium Emmae Reginae, Emma se présente comme protégée par les dieux. L'usurpateur de la couronne, Harold, voit son âme libérée de son corps. Dans A Hollow Crown, Emma a plusieurs réflexions sur Dieu, sur la religion, et se dit que Dieu n'est sûrement pas centré sur la vie des femmes et ne pense sûrement pas aux femmes, puisque sinon elle n'aurait pas souffert comme elle l'a fait aux mains de son premier mari, Æthelred II. Et donc on a vraiment une réponse directe peut-être des deux dans ces deux réflexions qui se répondent. Et encore une fois, on repense à la citation de Stafford au tout début. Si Emma a essayé son autorité grâce à la caution de Dieu, Hélène Olic rejette Dieu au final. Enfin, les relations avec les hommes sont très différentes. Dans l'Encomium Emmae Reginae, Emma de Normandie est l'égale de Canute le Grand, puis de Hertha Kanute. Ils écoutent ses conseils. Et pourtant, dans Hollow Crown, le pouvoir d'Emma ne s'affirme pas grâce à sa relation avec les hommes, mais en dépit de celle-ci. Elle est une femme de peu de pouvoir dans la première partie de son mariage à Æthelred II et n'en gagne qu'au fur et à mesure de la perte de pouvoir de son mari. Æthelred est touché par un passé traumatisant et hanté par l'image du meurtre de son frère commandé par sa mère et perd progressivement son emprise sur la réalité et donc par conséquent son pouvoir. Emma n'en devient que plus forte à travers cette perte de pouvoir. C'est en rappelant à Æthelred II l'image de cette mère qui le hante, en citant cette femme capable de tuer un roi, que Emma obtient d'Æthelred qu'il cesse de la toucher sans son consentement. Même au cours de son règne aux côtés de Canute, Emma garde l'homme qu'elle aime à distance. Canute aime Emma, mais il n'en reste pas moins un homme, et son pouvoir est une entrave à celui d'Emma. L'Encomiaste envisage donc la relation d'Emma avec les hommes comme une source de pouvoir, alors que Hélène Olic perçoit les hommes comme une menace au pouvoir d'Emma. Parallèlement, le récit ne commence pas au même moment. L'Encomiaste écrit Emma quand elle épouse Canute, donc introduit Emma dans le récit quand elle épouse Canute, et Hollow Crown quand elle se marie à Æthelred. L'Encomiaste présente une Emma qui a déjà du pouvoir, alors que Hélène Olic présente une montée au pouvoir d'Emma. Pardon, je viens de me perdre. Donc on va passer maintenant à la dernière partie, les enjeux de la représentation. Donc, peu importe la raison qui motive l'écriture de l'Encomium Emmae Reginae, l'œuvre demeure politique. C'est une rare vitrine sur l'autoreprésentation d'Emma. Le besoin de se représenter sous son meilleur jour, à la fois pour justifier son règne et possiblement celui de son fils, dans le présent tout en assurant son image pour la postérité, sont des raisons qui poussent Emma à créer une telle représentation. L'image, certes manipulée, qu'elle renvoie correspond aux idéaux féminins de la période dans laquelle elle évolue. Son affiliation constante aux hommes avec qui elle partage le pouvoir, en tant que bonne mère et épouse, est un moyen de justifier son rôle politique tout en le construisant et en respectant le système dans lequel elle évolue. En effet, si certaines reines peuvent être régentes dans la période qui précède la conquête de l'Angleterre, le pays n'aura pas de reine régnant en tant que Rex Feminis, roi au féminin, avant le XVe siècle. Emma inscrit donc son règne dans les critères de la royauté du XIe siècle. Elle est protégée par Dieu et par la caution que lui apportent les hommes qui l'entourent. Hélène Olic ne présente donc pas la royauté au féminin et son pouvoir de la même façon parce que les critères de féminité, de royauté et les objectifs de la rédaction ne sont plus les mêmes. Comme mentionné précédemment, Hélène Olic, à travers ce roman, met en lumière la place des femmes dans la société du Moyen-Âge en exposant le point de vue des femmes et permettant une réflexion sur leurs conditions, à travers les yeux d'Emma, certes, mais aussi d'autres femmes dans le roman, notamment Guita, Léo Gifu et Elle Gifu de Northampton. Ce qui expliquant ainsi la place unique et complexe de la reine qui est au-dessus de tout, mais qui en reste toujours une femme. Il nous faut aussi noter que Hélène Olic produit un livre d'histoire dans le présent, Une grande partie de son travail est donc non seulement d'écrire les symboles de pouvoir, mais aussi de les expliquer à un public qui ne les reconnaîtrait pas. Il y a des instances, par exemple, où Hélène Olic décrit une bague qu'Emma reçoit lors de son mariage et explique que ce n'est pas une bague de mariage, c'est une bague de fiançailles. C'est le lien qui est créé entre Emma et l'Angleterre. Et donc, c'est en portant cette bague qu'Emma promet de protéger l'Angleterre. Donc, mon argument principal dans cette intervention est de dire que la différence entre les deux textes provient tout autant des 965 ans qui séparent les deux œuvres que des missions différentes qui leur sont attribuées. L'un des textes a pour but de justifier le pouvoir d'Emma de Normandie, pendant que l'autre se doit de l'expliquer. Et le bien matériel comme démonstration de pouvoir est aussi très important avec la création de ces œuvres. On a ici donc l'enluminure du manuscrit L de l'Encomium, qui est donc potentiellement la représentation qu'on avait à l'origine, c'est peut-être une copie. Ce livre, donc l'Encomium, propose le rare point de vue d'une femme et d'une reine, ce qui est un objet tout à fait unique au XIe siècle, et il nous offre une représentation physique d'Emma de Normandie, ce qui est relativement rare dans la période, avec deux ou trois représentations. Emma de Normandie est la femme la plus représentée du XIe siècle, pour vous donner une idée. L'image capture et accroît la représentation d'Emma de Normandie comme une femme de pouvoir en elle-même. Emma est au centre de l'image, elle est vêtue de vêtements assez riches, elle porte une couronne. Devant elle, on a un homme qui s'agenouille, c'est l'Encomiaste qui lui tend l'Encomium, et il est tourné vers Emma et non pas vers les deux jeunes hommes qui sont sur le côté de l'image. Ces deux jeunes hommes, ce sont Édouard et Arthur Canute, on les reconnaît grâce à la couronne. Et quand vous tracez une ligne droite, vous remarquez qu'Emma est au-dessus de ses deux fils. Elle est donc la personne la plus importante, non seulement du récit, de l'image, mais aussi peut-être du pouvoir anglais de la période. Donc avec ces deux œuvres, on a pu constater que si la représentation de pouvoir est importante au XIe siècle, tout comme au XXIe siècle, elle ne sert pas le même but. Dans une période, on cherche à justifier le pouvoir et dans l'autre, à l'expliquer, tout en sachant que la personne qui va expliquer le pouvoir va forcément le faire en reprenant les codes qui ont été construits au XIe siècle et donc dans l'Encomium et Maïe Reginae. Et voilà.